non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SPJC, je dis foncé, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de CPF, de chômage et de carburateur. L'idée, vous allez le voir, m'a été soufflée par l'UNEDIC, notre partenaire sur cet épisode. L'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage en France. En récupérant d'un côté les cotisations prélevées par les organismes de sécurité sociale et en les reversant de l'autre à Pôle emploi, qui indemnise les chômeurs et les chômeuses. L'UNEDIC a aussi un super podcast dédié au bouleversement du marché du travail intitulé « Point de suspension », dont la saison 4 est animée par Léa Lejeune.
Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez « Point de suspension », le podcast de l'UNEDIC.
Avec l'UNEDIC, on souhaitait parler d'emploi, et plus particulièrement des envies de reconversion qui secouent certains et certaines d'entre nous depuis la crise sanitaire. Eh oui, vous vous souvenez du Covid ? Mais si, cette épidémie qui a fait 6 millions de morts dans le monde et qui nous a obligés à vivre plusieurs périodes de confinement. Il paraît que la pandémie n'est pas finie d'ailleurs. Il y a encore des villes confinées en Chine, par exemple. En revanche, en Europe, tout se passe comme si la crise sanitaire était derrière nous. L'activité économique a repris, et même s'il y a encore des problèmes épineux du côté du marché du travail, les chiffres sont encourageants. À la fin de l'année 2021, le taux de chômage était tombé à 7,4%. On pourrait faire mieux sans doute, mais ça fait presque 15 ans qu'on n'a pas vu autant d'actifs trouver du travail quand ils et elles en cherchent. Alors, est-ce que le Covid est définitivement oublié ? Est-ce que les confinements, c'est du passé ? Peut-être, mais il y a des traces durables de ces événements pour les entreprises et les travailleurs et les travailleuses qui les ont vécus. L'une de ces traces, c'est le recours au télétravail qui s'est généralisé dans beaucoup d'activités et qui ne reviendra plus au niveau de 2019. Une autre conséquence de la pandémie et du confinement, je vous en avais déjà parlé en septembre, c'est le marché de l'immobilier. On voit de plus en plus de Parisiens s'établir en province, en partie grâce au télétravail d'ailleurs. En 2020, souvenez-vous, on parlait du « monde d'après ». On imaginait que le travail, la santé, l'écologie allaient sortir profondément bouleversés par la crise sanitaire. Et on voyait des reportages sur des couples de cadres urbains qui avaient ouvert les yeux sur la vacuité de leurs allers-retours quotidiens à la Défense et qui étaient partis ouvrir une librairie associative dans une petite ville. Bref, il est possible que la période étrange que nous venons de traverser pendant 2 ans ait encouragé les initiatives de reconversion professionnelle. On en a parlé avec Florine Martin, chargée d'études à l'UNEDIC, qui a pas mal de données là-dessus.
Ce qu'on a pu observer, c'est déjà que la crise a pu avoir vraiment un effet paralysant pour un certain nombre de salariés. Et ça, on l'observe dans le baromètre UNEDIC sur la perception du chômage, qui a été réalisé par l'Institut ELAB. Le terrain a été réalisé à la rentrée 2021. Et ce baromètre permet donc d'examiner en détail les envies de changement professionnel des Français. Et ce qu'on peut observer, c'est que la crise de la Covid-19 a d'abord eu un effet paralysant pour un certain nombre de personnes sur leurs projets professionnels. On voit que 24% des actifs qui sont en emploi estiment que la crise a été un frein au changement d'employeur, et que 16% jugent à l'inverse que ça a été une occasion pour eux. 21% des actifs nous disent également que la crise de la Covid a été un frein aux possibilités de changement de métier ou de faire une reconversion professionnelle, contre 20% qui ont trouvé une occasion. Donc on voit que les sentiments sont assez partagés sur l'effet de la crise, effet paralysant ou non sur les reconversions notamment. Pourtant, on a quand même une majorité d'actifs en emploi qui expriment un désir de changement. Et dans le même baromètre UNEDIC, on observe que près de 6 personnes sur 10 déclarent avoir en tête ou en cours soit changer de métier, changer d'employeur, changer de secteur d'activité ou encore se former dans leur métier actuel. Et cette proportion dépasse les 75% pour les demandeurs d'emploi.
Des tendances se dessinent donc, mais qui ne sont pas encore définitives. Alors, la pandémie nous a-t-elle convaincus de changer de métier ? De quoi parle-t-on derrière le terme « reconversion professionnelle » ? Non seulement de mobilité géographique et de changement d'employeur, mais surtout de changement complet de métier, voire de secteur. En gros, c'est décider au cours de sa carrière, parce qu'on y est un peu contraint ou par envie, de la transformer. L'exemple du cadre trentenaire qui laisse tomber son bullshit job dans une compagnie d'assurance pour devenir boulanger, c'est peut-être le plus médiatique. Et d'ailleurs, ça ne date pas de 2020. Ce terme « bullshit job » vient d'un article de David Graeber qui remonte à 2013.
L'aliénation de la majorité des travailleurs de bureau amenés à dédier leur vie à des tâches inutiles et vides de sens tout en ayant pleinement conscience de la superficialité de leur contribution à la société. En gros, ils font de la merde, mais ils sont au courant.
Et avant cela, en 2009, c'était Matthew Crawford qui avait écrit un petit livre « Éloge du carburateur ». Il expliquait pourquoi il avait quitté un emploi bien payé dans un think tank pour ouvrir un atelier de réparation de vieilles motos. Le livre a été un succès de librairie. Bref, des changements complets de métier, souvent assortis d'un déménagement et d'une remise en question profonde de son mode de vie. Ça peut correspondre à un projet choisi et mûrement réfléchi. Mais en réalité, quand on parle de reconversion professionnelle, on emploie une expression qui remonte beaucoup plus loin et qui n'a pas grand-chose à voir avec des cols blancs quittant le confort de leur bureau à la Défense.
Ce terme de reconversion professionnelle, il vient d'une demande sociale, en fait, sur les questions de reconversion, notamment à l'époque des mineurs, en fait, hein, où on a essayé d'en reconvertir un certain nombre dans le secteur du bâtiment, en estimant qu'ils avaient des compétences qui étaient transférables dans le bâtiment, sauf qu'en même temps, bon, il y avait beaucoup plus d'accidents du travail avec les mineurs, parce qu'en fait, quand ils étaient à l'extérieur, ils se sentaient en sécurité, ils se mettaient plus facilement en danger que les gens du métier, entre guillemets. Et dans les reconversions professionnelles, on parle de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut toujours préciser de quoi on parle quand on parle de reconversion, parce que ça peut être des changements de métier, ça peut être un changement d'activité, ça peut être un changement de statut, c'est-à-dire passer de salarié indépendant, indépendant à salarié.
Je vous présente Muriel Mathus. Elle est doctorante en sociologie au CNAM et elle travaille précisément sur cette question des reconversions professionnelles. Alors, pourquoi parle-t-elle des mineurs ? Parce que dans les années 60 et 70, cette industrie a complètement dévissé, en France, face à la concurrence étrangère. De même que la sidérurgie et un peu plus tard le textile. Conséquence, des régions entières, le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais en l'occurrence, ont dû trouver des solutions face aux dizaines de milliers de destructions d'emplois qui se déroulaient. On a mis beaucoup de ces travailleurs en pré-retraite, en leur permettant d'attendre leur retraite sans retravailler. Mais on a aussi commencé à inventer des dispositifs pour trouver des emplois de substitution, surtout pour les plus jeunes. À l'époque, c'est assez rudimentaire. Les pouvoirs publics et quelques gros employeurs se mettent autour d'une table pour regarder dans quelle boîte on pourrait embaucher des mineurs ou des ouvriers sidérurgistes. On crée des cellules de reclassement, un fonds national pour l'emploi, et on distribue des primes pour les départs volontaires. Et là, on entre dans le cœur du sujet. Dans une économie en pleine croissance, c'est logique que certains secteurs se développent en faisant de plus en plus appel à la main-d'œuvre, sans en trouver immédiatement. Pensez à l'industrie pendant les Trente Glorieuses, par exemple. Dans le même temps, d'autres secteurs détruisent des emplois. Pas forcément parce qu'ils deviennent moins productifs, au contraire. Pensez à l'agriculture à la même époque, qui connaît des gains de productivité très importants et dans laquelle on a donc besoin de moins de bras. Donc, dans l'idéal, il faudrait que des actifs et des actifs du second secteur puissent s'embaucher dans le premier. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est largement passé pendant les Trente Glorieuses. Les enfants d'agriculteurs et d'agricultrices sont partis à la ville se faire embaucher à l'usine. Bien sûr, c'est plus facile quand le chômage est très faible et que les entreprises sont obligées d'augmenter régulièrement les salaires. Mais depuis les années 80, au contraire, on observe un affaiblissement de la croissance, un chômage important, et cette mécanique que l'on appelle le déversement ne se fait plus avec la même facilité. On n'arrive pas à recaser des dizaines de milliers d'ouvrières du textile du Nord dans... Mais dans quelle entreprise, au fait ? Qui pourrait les embaucher ? En fait, ça dépend de leurs compétences, mais peut-être faudrait-il qu'elles en acquièrent de nouvelles. Et rien ne dit que l'on pourra les reconvertir en quelques années. Muriel Mathus.
On s'est rendu compte aussi que tout ce qui était reconversion collective, justement, bon, les mineurs dans d'autres secteurs et tout ça, on s'est rendu compte aussi que ça marchait pas très bien. Enfin, c'est-à-dire qu'on force en fait les gens à aller exercer un autre métier. Donc, de toute façon, même dans les PSE.
PSE, ça veut dire plan de sauvegarde de l'emploi.
Il y a des cellules de reclassement. On essaie de chercher une solution individuelle en fait pour chaque personne parce que c'est pas forcément adapté et encore plus quand ça signifie aussi une mobilité géographique en fait. En plus de la reconversion, donc les personnes sont encore plus déracinées. Donc il y a des pertes de repères qui sont assez énormes. Ça ne marche pas forcément très bien. Après, il y a aussi la dynamique de l'individualisation de l'accompagnement, individualisation des droits avec le CPF, par exemple. Sauf que progressivement aussi, avec tous ces dispositifs-là, on fait davantage porter sur l'individu la responsabilité de sa carrière professionnelle, de son orientation.
Donc, à partir des années 90, on voit se développer des programmes destinés à individualiser les parcours de reconversion professionnelle. Le bilan de compétences, par exemple, qui vous permet de faire le point avec un ou une professionnelle sur ce que vous maîtrisez et qui pourrait être utile dans d'autres métiers. Puis le droit individuel à la formation, devenu en 2018 le compte personnel formation, le fameux CPF pour lequel vous recevez des dizaines d'appels téléphoniques par semaine.
Et avec ce compte-là, vous pouvez faire des formations gratuites sans rien débourser de votre poche.
En parallèle, il existe des dispositifs d'accompagnement à la formation, à la recherche d'un nouvel emploi dans une nouvelle branche ou encore à la création d'entreprise que vous permettent Pôle emploi, l'APEC pour les cadres, les missions locales ou encore la commission paritaire interprofessionnelle régionale. En forçant le trait, on pourrait dire qu'il existe beaucoup de dispositifs d'accompagnement et de prise en charge, mais qui sont mal connus et mal utilisés.
Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des inégalités énormes, parce qu'il n'y a pas qu'une segmentation du marché du travail, il y a aussi une segmentation du coup aussi des travailleurs en fait. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources, les mêmes possibilités. Ne serait-ce que pour faire des démarches, je suis aussi arrivée à convaincre qu'on va absolument se reconvertir. Il faut quand même passer par un certain nombre de normes pour avoir accès à certains dispositifs plus facilement ou plus rapidement. Moi, je vois dans les reconversions que j'ai analysées, ceux qui notamment arrivaient au chômage de façon volontaire pour un projet bien précis, en général, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ont déjà bien digéré tout leur projet. Donc, ils ont une force de négociation qui est beaucoup plus importante que quelqu'un qui a besoin en fait d'être aider pour être orienté.
Alors, est-ce qu'on peut opposer d'un côté des projets individuels mûrement réfléchis par des gens qui en ont les moyens et de l'autre, des reconversions difficiles pour des milliers de personnes à la fois moins formées et qui subiraient leur sort? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La première chose à prendre en compte, c'est que les actifs ne se contentent pas d'attendre qu'on s'occupe d'eux, surtout pas en matière de formation, qu'ils soient en emploi ou demandeurs d'emploi. Florine Martin.
Selon le baromètre Centre Info CSA, on a 86% des actifs qui considèrent que ce sont à eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont un rôle important, voire très important à jouer dans leur parcours de formation. Donc ce phénomène d'individualisation, il est même intégré en fait par les personnes elles-mêmes. Et c'est devant les organismes de formation, puisque là, on a 73% des actifs qui considèrent que c'est aux organismes de formation d'avoir un rôle important à jouer dans le parcours de formation, et 72% pour l'employeur.
Cela étant dit, on peut en effet observer de fortes inégalités dans le recours à la formation et dans le succès ou l'échec des projets de reconversion. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? D'une part, parce que les personnes qui ont recours à la formation sont plutôt celles qui ont déjà eu une formation initiale longue. C'est plus difficile de retourner sur les bancs de l'école quand vous en êtes sorti tôt, avec des souvenirs pas toujours très heureux. Or, le système de formation professionnelle française passe encore beaucoup par des modalités qui ont un aspect scolaire, alors qu'on pourrait développer davantage la validation des acquis d'expérience qui n'est pas bien prise en charge en France. Et d'autre part, parce qu'il est possible que votre formation soit financée par Pôle emploi ou pas. Et dans ce cas, c'est à vous de vous débrouiller pour la financer. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte d'autres sources d'inégalités comme les coûts des transports, les coûts pour se restaurer pendant la formation ou encore pour se loger. Plus généralement, se reconvertir, ça veut dire changer de métier, donc d'identité professionnelle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et on ne choisit pas un métier au hasard.
Les possibilités de reconversion sont aussi toujours plus ou moins limitées. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu avec en étudiant les chômeurs, c'est souvent que le répertoire en fait de métiers possibles est souvent dans un environnement très proche, que ce soit des métiers exercés par les proches, même en termes d'orientation initiale, ça peut être aussi ce qu'on a vu à la télévision en se disant là j'aimerais être cuisinier, ça a l'air très bien, et finalement se reconvertir parce que c'est incompatible avec une vie familiale à partir d'un certain âge. Mais le répertoire est souvent très 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 dans un environnement très proche, et même dans les métiers qu'on va exclure aussi. Alors, autour de moi, il y en a, ils exercent des métiers, je voudrais jamais les faire, donc je cherche quelque chose qui pourrait me convenir. Donc ça reste quand même relativement limité, et c'est aussi de façon pratique, ça permet de savoir un petit peu ce que ça implique en termes de mode de vie, ce que ça implique aussi en termes d'itinéraire. Donc ça donne quand même une vision assez claire de comment on peut parvenir à ce métier-là en fait. Parce que c'est pas toujours évident, si on dit devenir ouvrier dans le bâtiment, si vous avez personne dans votre entourage qui travaille dans le bâtiment, vous n'avez absolument aucune idée de ce ce qu'il faut faire, comment sont les conditions de travail, est-ce que il y a des opportunités de carrière ou pas. En fait, c'est très 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 flou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a notamment auprès des chômeurs, il y a des dispositifs où on va faire découvrir des métiers. C'est pour élargir en fait les possibilités pour les personnes, mais ça marche pas forcément toujours très bien. Parce que souvent d'ailleurs, les métiers qui recrutent le plus, ce sont pas les métiers où les conditions de travail sont les plus agréables, quoi.
On a vu par exemple beaucoup de soignants et de soignantes prendre la décision de quitter leur hôpital ou leur clinique depuis 2 ans. Ça s'explique par plusieurs raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais ça conduit à ce que, paradoxalement, on ait besoin de recruter de plus en plus d'aides-soignants. Je finis sur un dernier élément à prendre en compte. C'est le soutien que reçoivent les personnes en reconversion de la part de leur entourage. Ça recouvre bien sûr une très grande variété de situations individuelles. Et il est difficile d'observer ici des régularités. Mais Muriel Mathus explique que, pour réussir ce changement d'identité professionnelle, il faut avoir le temps d'y réfléchir, de se remettre en question, de se former à de nouvelles compétences, et parfois de ne pas contribuer aux revenus du ménage pendant des mois, voire des années. Lorsque votre famille vous accompagne et vous aide, c'est bien sûr plus facile que dans le cas contraire. Mais alors, revenons à notre question initiale. Est-ce que la crise sanitaire a donné lieu à une grande remise en question et à l'envie de laisser tomber son boulot pour en changer complètement? Ce qui nous a donné envie de poser cette question, c'est notamment ce qu'on observe du côté des États-Unis depuis l'an dernier. Les créations d'emplois sont à un niveau historiquement élevé, et dans le même temps, on voit des millions de travailleurs et de travailleuses quitter leur emploi et démissionner. La presse américaine a parlé pour cette raison de « big quit » ou de « great reshuffle ». Même des personnes peu diplômées, et avec des niveaux de salaire faibles, se sont mises à devenir plus exigeantes face à leur employeur et à menacer de démissionner. C'est l'un des résultats des chèques qui ont été distribués aux ménages américains par le gouvernement fédéral pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'on observe la même chose en France ? Florine Martin.
En fait, jusqu'au deuxième trimestre 2021, on n'observait pas du tout ce phénomène en France. Par contre, à partir du dernier trimestre qu'on connaît, selon les chiffres de la DARES, à partir du troisième trimestre 2021, on voit effectivement les démissions qui atteignent un niveau historique, puisqu'on a 445 000 démissions sur ce trimestre-là. Par contre, les ruptures conventionnelles sont, elles, restées à un niveau qui sont relativement stables. Donc, il va falloir voir si sur les prochains trimestres, ce phénomène va se confirmer ou non. Ce phénomène, il s'explique d'une part par la reprise économique et le fait que, en ce moment, le marché du travail est vraiment porteur. À l'inverse, on observe qu'il y a beaucoup moins d'envie de changement professionnel quand la situation économique est mauvaise. Le Covid a également joué un rôle déclencheur dans ce phénomène, puisque ça a permis aux salariés, durant la crise, de se poser et puis de réfléchir au sens de leur travail, à ce qu'ils attendent de leur travail, aux valeurs qu'ils souhaitent porter. On observe également qu'ils souhaitent davantage d'autonomie, davantage de possibilités de télétravail. Et ce changement ne touche pas seulement les cadres, ça touche l'ensemble des catégories socioprofessionnelles.
D'ailleurs, pour approfondir sur le sujet d'un big quit français, je vous recommande une interview passionnante sur le sujet avec Stefano Scarpetta, qui se trouve dans la saison 4 de Point de Suspension, le podcast de l'UNEDIC. Bref, tout le monde ne quitte pas son métier pour en changer entièrement. Mais Muriel Mathus explique quant à elle que ce qui peut favoriser une reconversion, ce sont des conditions de travail exécrables que l'on veut quitter définitivement.
En fait, le big quit, ça peut être aussi bien des reconversions que des mobilités vers des entreprises qui payent un peu mieux. Enfin, en tout cas, quand on voit un peu les analyses qui sont faites aux États-Unis sur ce phénomène-là, c'est possible pour trouver des emplois mieux payés, avec une conciliation vie professionnelle, vie personnelle plus intéressante. Ça, c'est extrêmement important, en fait, dans les reconversions, mais aussi dans les changements d'entreprise, c'est de rechercher, en fait, des conditions de travail les améliorer, en fait, ces conditions de travail. De trouver une entreprise ou un milieu professionnel dans lequel les conditions de travail seront plus favorables ou moins pénibles.
Nous sommes donc pour l'instant dans une période de rattrapage. On recrée des emplois grâce à la reprise de la croissance. On voit l'activité partielle diminuer et beaucoup de gens se poser des questions sur le métier qu'ils ou elles aimeraient faire demain. Et dans le même temps, le plan d'investissement dans les compétences, mis en place depuis 2018, incite les entreprises à développer de nouvelles formations qualifiantes et tente de ramener vers l'emploi des personnes qui manquent de formation ou qui en sont éloignées parce qu'elles sont réfugiées ou en situation de handicap. Ce sont des actions encore mesurées et qui ne bouleversent pas le marché du travail. Certains organismes, comme France Stratégie, réfléchissent aux métiers de 2030, en essayant de prendre en compte l'impact de la transition numérique et de la transition énergétique sur les emplois, par exemple. Ça aussi, Léa Lejeune en parle dans la saison 4 de Point de Suspension, notamment dans l'épisode avec Cécile Joly. On peut donc être raisonnablement optimiste. Des métiers sont en train de se créer, certes, mais d'autres ont du mal à recruter, même s'ils sont anciens. Ça peut donner l'occasion aux personnes qui cherchent à se reconvertir de trouver des opportunités. Mais le principal problème, finalement, c'est de faire connaître les dispositifs d'accompagnement existants et de mieux les adapter aux besoins en termes de formation professionnelle. Merci une nouvelle fois à l'UNEDIC. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode en partenariat avec l'UNEDIC sur le sujet de l'activité partielle. En attendant, vous pouvez également aller écouter le podcast Point de Suspension, dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite par Marine Rowe, coordonnée par Mathilde Jeunin avec l'aide de Charlotte Quéré, mixée par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.